Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous sommes toujours dans la section sur l'esprit dans le catéchisme de l'Église catholique. Il y avait une première partie pour le lien entre l'Esprit et Saint Jean, ensuite le lien entre l'Esprit et la Vierge Marie, et on arrive au lien plus particulier entre l'Esprit et le Christ. Et il est écrit au 727, « Toute la mission du Fils et de l'Esprit Saint dans la plénitude du temps est contenue en ce que le Fils est loin de l'Esprit du Père depuis son incarnation, Jésus est Christ, le Messie. » Alors, on a l'impression qu'il y a une distinction qui est faite entre le Christ et le Fils. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on distingue le Fils et le Christ ?
Alors, le Fils est bien sûr considéré dans la théologie immanente, c'est-à-dire dans le mystère de Dieu trois fois saint, le mystère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Christ est compris dans la réalisation dite économique dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'incarnation. Jésus a réalisé les promesses, cette attente d'un sauveur, et donc le Christ est loin. Machiach en hébreu veut dire effectivement loin, celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Mais évidemment, comme fils éternel, il n'a pas besoin de l'onction du Saint-Esprit. Mmh. C'est pour cela qu'il y a une petite difficulté de compréhension. Par contre, du point de vue de son humanité sainte dans le temps, qui est apparue comme une réalité créée, son corps et son âme ont vraiment été conçus, créés au moment de l'incarnation, au moment où la Vierge Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », c'est extraordinaire. C'est le moment de la conception du Christ avec son corps, son âme, tout lui est donné à ce moment-là. Comme nous le savons, l'âme est donnée immédiatement avec le corps, et ça c'est important par rapport à tous les débats que l'on a aujourd'hui dans la société. La conception, c'est la conception de l'âme et du corps. Donc tout le corps, toute l'âme de Jésus a été donnée à ce moment-là, et Jésus, dans cette humanité, dans sa nature humaine, a reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Machiach, c'est celui qui est loin, qui reçoit le Saint-Esprit, et il est animé par l'Esprit. D'ailleurs, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, insistent beaucoup sur l'action du Saint-Esprit dans les débuts de la vie publique de Jésus. Il est conduit au désert, on dit que c'est l'Esprit qui le conduit au désert, on le voit arriver à la synagogue de Nazareth, on dit que le premier rouleau qu'il ouvre, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Toutes ces expressions montrent bien une humanité mue par le Saint-Esprit, mais mue par le Saint-Esprit, c'est aussi mue par le Fils, évidemment, puisque il est la première personne divine en premier, avant d'être incarné. Il est une personne divine. Il est, dans l'ordre de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité, mais il est une personne divine, et de ce point de vue-là, cette humanité est mue par ce qu'il est en tant que première personne divine.
Et d'où l'expression, on voit au deuxième paragraphe, « Toute l'œuvre du Christ est mission conjointe du Fils et de l'Esprit-Saint ». À une première lecture, on peut être un peu étonné, comme si on distinguait le Fils du Christ, mais tu l'expliques bien, c'est que c'est les personnes divines qui...
Voilà, ce sont les personnes divines qui sont en filigrane de toute la vie du Christ, parce que rien ne peut se faire, je dirais, au niveau économique, dans la réalisation du dessein d'amour bienveillant de Dieu sur l'humanité, sans l'action du Père qui engendre le Fils, et donc du Fils, et du Père et du Fils qui spirent le Saint-Esprit, et donc du Saint-Esprit. Tout est fait selon les relations d'origine. Les relations d'origine sont toujours présentes dans tous les actes qui sont communs à la Sainte Trinité. Et tout ce qui se passe en dehors de Dieu est commun à la Sainte Trinité. Et donc nécessairement, s'il y a une mission, je dirais, de l'Église, mission, elle est nécessairement du Fils et de l'Esprit en tant qu'envoyé du Père, puisque mission, ça veut dire être envoyé. Et Jésus d'ailleurs le dit au moment de la résurrection d'entre les morts, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et donc Jésus situe l'Église dans la même ligne que lui-même est envoyé. Et on comprend très bien donc que l'Église est en quelque sorte la prolongation de ce mystère d'envoi qui est l'envoi du Fils. Et Jésus l'a dit très vite dans son ministère, qui est aussi l'envoi du Saint-Esprit. Il a promis le Paraclet. Et ce Saint-Esprit, on verra dans les numéros qui suivront du catéchisme, qu'il y a un envoi aussi du Saint-Esprit. Et donc les deux sont, je dirais, non pas coïncidents, mais concomitants.
Alors, au moment de l'incarnation, le Fils est manifesté d'une manière très claire dans le Christ, mais au 728, il est dit que le Christ va suggérer seulement peu à peu l'existence de l'Esprit-Saint. Pourquoi on n'a pas une révélation pleine de l'Esprit-Saint en même temps que le Christ? Pourquoi il faut attendre sa mort et sa résurrection, ou la Pentecôte?
Alors, de fait, ça c'est une grosse question que les pères ont eu à débattre pendant longtemps, et on peut dire que c'est à partir de Saint Basile, au IVe siècle, que petit à petit, je dirais, la compréhension de la manière d'agir de Dieu s'est petit à petit, je dirais, une sorte de prise de conscience, voyez, de ce qui se passait. Parce que c'est vrai que c'était délicat de comprendre pourquoi ce qui apparaît un peu un atermoiement, pourquoi Dieu, au moment de Béréchit, au moment de la Genèse, en révélant qu'il était le Dieu créateur, n'a pas dit en même temps « Je suis le Père, et voilà mon Fils, et voilà le Saint-Esprit ». Et il aurait très bien pu agir comme cela. Mais il ne voulait en aucun cas que l'on déroge par rapport à l'unicité de la nature divine. Je dirais que la première chose de la révélation, c'est bien de tenir un monothéisme au sens vraiment purifié, c'est-à-dire un unique Dieu qui est personnel et qui petit à petit se révèle dans le Nouveau Testament au niveau, je dirais, de la vie interne de dans cette unité. Mais il fallait d'abord poser l'unité en toute premier lieu pour éviter qu'on tombe dans le polythéisme, qu'on tombe dans un trithéisme, par exemple, qui serait une forme de polythéisme, heureusement qui n'a jamais atteint l'Église. Jamais il n'y a eu de courant trithéiste qui aurait cru qu'il y aurait eu trois dieux dans l'Église. Il y a eu des courants ariens qui sont arrivés à cela, mais la deuxième et la troisième personne pour ces ariens, qui se sont développés surtout, je dirais, dans la périphérie de l'Empire romain, chez les Gaules, les Ostrogoths et autres, je dirais, barbares, qui ont utilisé l'arianisme, eh bien, le Fils et le Saint-Esprit étaient seulement des créatures divinisées. Donc ils gardaient quand même le monothéisme. Mais du coup, le pauvre Fils et le pauvre Saint-Esprit n'étaient pas vraiment intégrés au mystère intime de Dieu, puisque c'était des réalités créées, certes divinisées, mais seulement créées. Donc la grande pédagogie divine, c'est d'arriver à donner d'abord l'unité, puis montrer que dans cette unité, il y a un ordre, le Père, le Fils, et il fallait déjà que la distinction soit suffisamment forte entre le Père et le Fils, et ne pas brûler les étapes pour arriver dans un, je dirais, troisième temps, à signifier la personnalité du Saint-Esprit.
Oui. Oui, donc le Fils va, pendant ces trois années de public, va essayer de se présenter, de se manifester comme le Fils. Et c'est seulement à la fin de ce temps-là qu'il va parler d'une manière plus explicite de l'Esprit-Saint.
Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et alors évidemment, comme le plan du Seigneur était déjà là, et que Dieu voit les choses avec, je dirais, grande longueur, non pas comme nous, souvent, instant par instant, il voit les choses, eh bien, c'était annoncé, je dirais, d'une manière déjà progressive. Par exemple, lorsque il y a cette annonce extrêmement forte de dans saint Matthieu, où Jésus annonce très bien qu'il faudra un jour témoigner dans l'action du Saint-Esprit. Et bien, cette action du Saint-Esprit, si il distingue bien du coup le Fils du Saint-Esprit en disant qu'un jour les disciples auront à témoigner dans la force du Saint-Esprit. Donc déjà, il prévoit les choses, et de même en Saint-Luc, on voit aussi l'annonce du Saint-Esprit qui est fait avec une certaine, je dirais effectivement, discrétion, mais déjà le nom du Saint-Esprit est clairement désigné, par exemple dans Matthieu, je dirais dans Luc chapitre 10, on nous parle de l'action du Saint-Esprit que Jésus, par laquelle Jésus tressaille. Et il nous est dit au verset 21, à cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Donc c'est très net.
Oui. Hein.
Et après, il parle du Père et du Fils. Et il révèle le mystère donc du Père et du Fils en disant « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. » Donc on sent bien que son insistance, c'est d'abord que nous distinguions bien le Père et le Fils. Et dans un deuxième temps, que l'on puisse alors aboutir à la connaissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par exemple, est donné au chapitre 11, à peine plus loin. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Donc c'est très net, cette distinction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais effectivement, il faut attendre un peu plus loin, mais nous le verrons dans une autre émission.
Très bien. Merci, frère Edouard.
À bientôt.